À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans l'émission précédente, j'ai terminé en faisant allusion à la dimension beaucoup plus large de la fragilité, de la guérison, que l'approche d'une personne isolée. Et j'évoquais le travail qui se fait dans le Conseil œcuménique des Églises, où je suis appelé à participer à des rencontres et à un groupe de travail. Et je me souviens de ce que nous avions vécu à Porto Alegre en mai 2006, lorsqu'il y a eu la 9e Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Églises et où on a abordé la question, le grand thème « Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce ». Où il nous était dit que Dieu peut transformer notre monde blessé par sa grâce dans la mesure où les uns et les autres, là où nous sommes, nous nous engageons pour rendre ce monde plus humain. De même qu'il est à l'origine de l'univers et de la vie, ainsi, la mission de l'Église est le fruit du débordement de l'amour de Dieu. C'est lui qui, en Jésus-Christ, est venu à notre secours, pour nous guérir, pour nous réconcilier. On peut dire que la mission naît du cœur de Dieu, et cela à chaque instant. Le fait que nous ayons envie de faire connaître le Christ vient en fait du débordement de l'amour de Dieu. Car cette mission, cet envoi vers les autres plus fragiles, n'est pas née simplement d'une initiative du Christ qui aurait souhaité à la fin de sa vie que son œuvre se poursuive. Ce n'est pas né non plus des besoins des gens, parce qu'on pourrait penser que le jour où les gens seront repus, comblés, ils n'auront plus besoin qu'on leur parle de cette bonne nouvelle. La mission est née du cœur du Père lui-même, dont l'amour ne peut pas ne pas se communiquer. Car il est amour, donc débordement et jaillissement. Et on lit dans l'évangile de Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, demeurez dans mon amour, dit Jésus. » Donc l'initiative de la venue du Christ vient bien du Père. Le Père qui envoie le Christ, qui ensuite nous envoie, et qui nous confie la bonne nouvelle d'un amour inconditionnel, qui rejoint de façon privilégiée les plus fragiles. Et c'est de ce premier envoi du Christ par le Père que découlent ensuite les envois en mission par le ressuscité. Et c'est frappant de voir que chaque évangile se termine par un envoi en mission par le Christ ressuscité. Nous voyons que Dieu s'est rendu extraordinairement vulnérable en remettant l'humanité et la création entre les mains d'hommes fragiles, d'homme pécheur. Dieu a mis sa vie entre nos mains. Et ce n'est donc que par sa grâce que l'Église peut participer à cette mission, qui est au-dessus de ses forces. Participer, car l'Esprit est toujours déjà à l'œuvre dans les cœurs et dans le monde, dans les autres cultures et les autres religions. Participer dans le sens que chacun est appelé à prendre part de ce travail de libération, de guérison, d'évangélisation. Et là, l'Église est appelée à être humble, vulnérable et audacieuse. Après des périodes de succès missionnaire, des périodes où la mission était associée aux conquêtes coloniales, des périodes de triomphalisme que nous avons connues aussi dans nos sociétés occidentales, l'Église fait aujourd'hui l'expérience de la fragilité. On peut même dire qu'elle parcourt un exode et que ça peut être une extraordinaire grâce pour elle de se retrouver plus humble, plus ouverte. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un tournant de l'histoire où nous voyons que la dignité de l'homme est particulièrement menacée. parce qu'il y a des enjeux mondiaux qui touchent à l'avenir de l'humanité et des personnes. Et cette blessure profonde de notre humanité a pris une grande diversité de visages. Déjà, lors d'une rencontre du Conseil œcuménique des Églises à Athènes, à la Pentecôte 2005, nous avions été sollicités à voir cette approche holistique des blessures du monde. Et je rappelle que le mot holistique vient d'un mot grec qui veut dire intégral, global. C'est-à-dire avoir une approche qui tient compte non seulement des personnes en tant qu'individus, mais aussi des sociétés, de l'économie, de la politique, de l'écologique et tout ce qui relève de la santé. En Jésus-Christ, notre Dieu a privilégié les pauvres et les exclus, car pour lui, chaque être humain est une histoire sacrée. Et c'est frappant de voir, et nous y reviendrons, comment Jésus a toujours associé des guérisons à l'annonce de la bonne nouvelle. Il a révélé que le royaume de Dieu était déjà là et que son salut concernait la personne dans toutes ses dimensions, spirituelle, corporelle, psychique, sociale, relationnelle, cosmique. Et c'est cette guérison intégrale qui réintégrait le lépreux dans la société, qui chassait Satan et qui calmait la tempête. En outre, c'est en tant que communauté de frères et de sœurs que Jésus a envoyé ses disciples pour poursuivre cette œuvre. Il faut reconnaître que devant le mystère de la souffrance, nous sommes tous à égalité dans notre pauvreté et notre espérance. Sans doute pas tous à égalité par rapport aux soins, parce qu'il y en a qui peuvent tout se permettre parce qu'ils ont beaucoup de moyens, et d'autres qui ne peuvent rien se permettre, parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer un cachet d'aspirine. Depuis les origines du christianisme, depuis les premières communautés, la priorité était donnée aux pauvres, aux malades, considérés autant spirituellement que corporellement. Le soin des malades et les guérisons ont accompagné l'évangélisation depuis le début de la mission. Cette diaconie, ce service, s'est exprimé au départ à travers la compassion, l'éducation, le soin, la solidarité, la prière, et souvent c'est dans les monastères que cela a commencé. Plus récemment, nous avons mieux compris que l'Église était appelée à aller plus loin, non seulement à prendre soin des blessés de la vie, à la suite d'un système mondial de plus en plus injuste, mais de se battre contre les causes sociales, économiques et politiques de ces blessures, dans un engagement pour la justice, la paix, la sauvegarde de la création. Ce serait trop simple de soigner les blessés en ne se préoccupant pas des causes de leurs blessures. Dans ces réflexions, quand je parle de santé, je veux parler de notre capacité d'adaptation continuelle à notre environnement, qui change sans cesse, à nos problèmes, à nos évolutions physiques, psychiques, spirituelles. Donc cela concerne aussi bien notre capacité à grandir, à vieillir, à guérir parfois, mais aussi à souffrir à certains moments, sans en être détruit, et finalement à nous avancer vers la mort avec un minimum de sérénité. Tout ça fait partie de la santé. Et donc la santé est compatible avec certains états de tension, de conflit. Elle n'est pas absente. De même que je dirais que guérir ne signifie pas forcément ne plus souffrir du tout. Mais cela veut dire pouvoir être capable de continuer à vivre avec des limites, avec des fragilités, avec parfois des pathologies. La guérison ne libère pas de toute fragilité, mais elle peut nous aider, surtout dans le cas d'une guérison spirituelle, à la vivre positivement. Il n'est pas possible d'évoquer les fragilités personnelles sans tenir compte de l'ensemble des violences et des menaces qui habitent le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, l'homme n'est pas une île. L'individu fait partie d'un ensemble plus large. Le monde, la société autour de nous, le pays, tout cela influe sur notre état intérieur. En outre, la façon dont les médias répercutent de préférence les événements du monde les plus douloureux et les plus négatifs génère un sentiment d'insécurité qui envahit un grand nombre de personnes fragiles. Je voudrais donc maintenant aborder la diversité des fragilités de notre monde en faisant comme lorsque l'on avance avec une caméra du plus loin au plus près, du plus large au plus proche. En partant de l'ensemble de notre monde avec ses soubresauts pour m'approcher de celui qui est là sur son lit d'hôpital et qui s'interroge. Je voudrais donc partir d'une approche géopolitique pour aboutir à notre frère souffrant qui est proche de nous, qui est peut-être d'ailleurs nous-mêmes. La fragilité que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes appelés à traverser, dépasse effectivement nos fragilités individuelles et nous vivons parfois dans une atmosphère anxiogène qui est cause de nombreuses pathologies. Nous le savons, les parents ou les soignants qui sont en contact avec des personnes qui ont des pathologies psychiques sérieuses vérifient à quel point à certains moments des informations télévisées ou des nouvelles qui circulent peuvent entraîner des peurs, des anxiétés et même des bouffées délirantes des épisodes de régression. Je crois que nous pouvons dire que c'est toutes nos sociétés qui sont fragilisées et qui sont en chemin d'enfantement, si nous voulons le voir de façon positive. Parce que de cette fragilité du monde peut naître peut-être un monde nouveau, espérons-le. En tout cas, il est vrai que nous traversons une crise de civilisation et cela se ressent dans le domaine de la santé, et la santé, une fois de plus, prise dans un sens holistique, c'est-à-dire global, intégral. C'est dans le fond toute la planète qui est malade, même s'il ne faut pas porter un regard purement négatif sur ce que l'on vit. À certaines époques, qui ne sont pas si lointaines, on avait rêvé d'avancées scientifiques extraordinaires. On avait rêvé de reculer indéfiniment l'âge du vieillissement, de guérir toutes les maladies. Et pourtant, nous faisons quotidiennement l'expérience de nos limites, de nos impuissances, des limites de nos sociétés, de l'incapacité de nos gouvernants à gérer bien des choses qu'on nous présente comme gérables. Les années 60-70 ont nourri un immense espoir dans les progrès de la technique, des sciences, des technologies. On pensait aussi que d'un point de vue économique et social, on irait vers plus de justice, moins de fractures, moins de divisions, moins de personnes marginalisées. Nous avions à cette époque confiance dans le rêve d'un progrès illimité de la raison. Nous pensions à une victoire de l'homme sur la nature. Nous rêvions aussi d'une solution à propos des tensions entre le Nord et le Sud, les riches et les pauvres. Et il faut reconnaître que nous vivons aujourd'hui un certain désenchantement, qui sont la conséquence de l'expérience que nous faisons des limites de ce rêve. Alors, considérons d'abord les fragilités au niveau mondial. Je ne veux pas tomber dans le pessimisme ou dans l'autoflagellation, mais je voudrais pointer certaines fragilités. Il est clair qu'en contrepoint des limites et des fragilités que je vais évoquer, on pourrait évoquer quantité d'exemples d'espérance. De cas où l'expérience de la fragilité a ouvert une porte vers de nouvelles expériences et de nouvelles espérances. Cependant, beaucoup de gens fragiles que nous rencontrons autour de nous sont marqués par les fragilités du monde et pas dues uniquement par leur propre histoire personnelle ou familiale. D'un point de vue géopolitique, on avait pensé un moment que la chute du mur de Berlin marquerait l'inauguration d'un temps de paix sur le plan mondial. Maintenant, on se dit que c'était peut-être plus simple de savoir exactement qui était l'ennemi. Quand il y avait deux blocs, on savait plus ou moins vers où orienter les missiles. Aujourd'hui, on a l'impression que le danger est partout. Et ce sentiment s'est exacerbé avec les attentats terroristes, en commençant par ceux du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais aussi tous les autres attentats auxquels on peut assister ces derniers temps. au point qu'on a commencé à parler d'un axe du mal. Parce que bien sûr, le mal vient toujours des autres. On investit énormément dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au moment du 11 septembre, il y avait deux discours qui étaient tenus en parallèle, complémentaires. Un discours qui disait « Plus jamais cela, nous allons éradiquer le terrorisme ». Et un autre discours qui disait « Pour éradiquer le terrorisme, nous allons éliminer les lieux de misère et de pauvreté qui nourrissent le terrorisme ». Mais on a oublié depuis lors ce second discours. On ne peut pas dire que la justice, le partage et la solidarité aient vraiment progressé au niveau international, même s'il y a, à travers des associations et des engagements, de très beaux progrès. Mais il y a encore énormément de désespérés dans le monde, et on peut même dire que, au fur et à mesure que le temps passe, le fossé grandit entre les riches et les pauvres. Même s'il est vrai aussi qu'il y a une prise de conscience plus grande des enjeux aujourd'hui, et peut-être particulièrement des jeunes générations en ce qui concerne la justice, l'écologie, les questions humanitaires. Quant à la fracture grandissante entre le Nord et le Sud, les médias ont révélé au grand public une réalité qui remonte en fait à plusieurs décennies, mais dont on n'était pas conscient. Ce qui est lié à l'immigration clandestine, surtout vers l'Europe, mais pas uniquement, parce que ça se pose, selon d'autres termes, en Amérique également, la question des migrations. J'ai été frappé, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique, par les migrations transsahariennes. En Afrique, nombreux sont les jeunes qui rêvent d'un bonheur à l'occidental. Pour eux, le paradis est au nord. Et ils sont prêts à traverser à prix d'or, sur un rafio qui coulera au milieu de la Méditerranée, le passage qui leur permettra d'arriver à ce pactole que représente pour eux l'Europe. Ils sont prêts à traverser à pied le désert pour arriver sur les côtes du Maroc ou de l'Algérie, où ils risquent d'être enfermés dans des camps de concentration et ensuite renvoyés chez eux. Cet espoir les habite au point que certains refont le voyage jusqu'à 5 fois, malgré les refoulements, les brimades et tout un circuit mafieux qui exploite ces gens à la recherche d'une solution. Et quand ils arrivent à débarquer sur cette terre promise, la première chose qu'ils expérimentent, c'est la traque, l'exploitation des sans-papiers. Parce qu'il y a toute une économie parallèle qui se nourrit de ces sans-papiers et qui nous permet d'ailleurs d'acheter moins cher. On investit plus dans le contrôle du flux migratoire que dans l'intégration et l'hospitalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler cette immigration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier comment les gens sont intégrés. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, la liberté de circulation des capitaux n'a pas correspondu à la liberté de circulation des personnes. Et il faut s'attendre à ce que cela augmente. Et c'est certainement une source de profonde inquiétude pour beaucoup de sociétés et une source de fragilisation pour tous ces migrants qui se cachent et qui ont besoin d'être rejoints. Après cette approche de ce qu'on pourrait appeler une conception ou une vision géopolitique de la fragilité, je vais me rapprocher un petit peu de nos sociétés, de nos pays. Travaillant en France, en Europe, je prendrai des exemples qui se rapprochent plutôt à la situation européenne ou française, mais je pense qu'il ne sera pas difficile pour les auditeurs québécois, par exemple, de trouver des exemples qui les rejoignent également, parce que nos sociétés sont très semblables en définitive, même si elles gèrent différemment les problèmes que nous pouvons rencontrer. Sur le plan des politiques nationales, la fragilité de nos sociétés européennes s'exprime par une très grande difficulté à construire le lien social. quand je suis allé au Québec, j'étais frappé de voir comment il y a une reconnaissance des différences culturelles et un certain droit à une pluralité culturelle, un certain communautarisme qui n'est pas forcément pris dans un sens négatif. En France, on parlera de façon beaucoup plus péjorative du communautarisme, parce que le repliement sur la communauté, bien sûr, est un risque pour la société, mais le rapport que l'on a aux religieux en France, au nom de la laïcité, fait qu'en définitive, toute attitude communautaire est parfois soupçonnée d'être communautariste. En tout cas, certains sociologues, comme Jean-Paul Willem, par exemple, qui est un sociologue des religions, va parler aujourd'hui d'une laïcisation de la laïcité. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une époque où la laïcité a vécu comme une sorte de religion alternative. Il y avait d'un côté le christianisme et de l'autre les grandes valeurs de la laïcité comme liberté, égalité, fraternité, qui, entre nous soit dit, sont d'origine chrétienne, et les grands repères qu'étaient la raison, le progrès, la science, la technique. Mais, nous le voyons, il y a un désenchantement aussi par rapport à ces éléments de science et de technique. Est-ce que vraiment un progrès de la technique veut dire un progrès humain au niveau de la personne? Est-ce que notre qualité de vie a tellement augmenté au fur et à mesure qu'on a une société de plus en plus performante, efficace et rapide? Est-ce que la raison est capable de répondre aussi à toutes les questions? Combien de personnes sont fascinées aujourd'hui par l'irrationnel? Tout ce qui est occulte, tout ce qui est étrange, qui est initiatique, réservé. Devant la diversité culturelle et religieuse, comment est-il possible de vivre ensemble dans un respect de nos diversités tout en ayant une appartenance qui reste forte d'un point de vue citoyen, d'un point de vue politique, d'un point de vue civilisationnel? Parce que c'est vrai que la diversité culturelle et religieuse est une chance. Mais comment les vivre vraiment comme une chance alors qu'il y a aujourd'hui tellement de réactions de repli? L'individualité est devenue individualisme. Et s'il y a de nombreuses associations qui essaient de se mettre au service de la société, nous savons qu'un grand nombre d'associations ne remplacent pas un vrai projet politique construit autour d'un lien social respectueux des différences. Alors qu'est-ce qui peut aider notre monde à devenir un peu plus juste? Quelle politique peut prendre en compte véritablement le souci du plus petit? Nous avons d'ailleurs l'impression aujourd'hui que le politique est lui-même prisonnier d'un financier dont les centres de décision paraissent complètement virtuels, ce qui fragilise la possibilité des politiques, les moyens des politiques pour réguler notre société et en faire un lieu où chacun a sa place, où personne n'est marginalisé. On est frappé ces jours-ci des fractures qui se vivent au nord, pas simplement entre le nord et le sud. Certains diront d'ailleurs que le nord a son sud et le sud a son nord, dans le sens que le nord a des grandes zones marginalisées de gens qui n'ont pas leur chance et leur place, alors que dans le sud, il y a des gens qui participent à la richesse et au pouvoir en marginalisant les autres. Donc nous sommes ici dans des situations où nous constatons que l'exclusion, le chômage, la marginalisation, le rejet de la différence existent et sont parfois exploités par des personnes de mauvaise foi. On l'a vu par exemple dans les mouvements politiques qui ont eu lieu en France, entre autres de la part des jeunes qui exprimaient leur peur, parce que les jeunes se trouvent devant une situation sans précédent par rapport à leurs parents. Alors que, durant ces dernières décennies, de génération en génération, le niveau de vie allait plutôt en augmentant, les gens étant de plus en plus équipés d'éléments, de possibilités d'un point de vue technologique, de possibilités de loisirs, etc., de confort, de soins aussi, alors que petit à petit, les jeunes sont conscients que vraisemblablement, ils n'auront pas le même niveau de vie que leurs parents et que quand ils seront à l'âge de la retraite, ils n'auront vraisemblablement pas les possibilités que ceux-ci ont. En France, 40% des étudiants sont obligés de trouver un petit travail pour pouvoir subventionner leurs études. Donc nous voyons que la question n'est pas si simple et que les tensions culturelles et religieuses que nous rencontrons aujourd'hui, pouvant provenir de fondamentalisme, de fanatisme, eh bien, sont l'expression de tensions de plus en plus fortes auxquels s'ajoutent d'autres insécurités, comme l'insécurité professionnelle, le désœuvrement, les délocalisations. Quelqu'un qui est délocalisé régulièrement finit par être déraciné. Il y a des problèmes au niveau des relations. Ceux qui sont sans emploi pendant une longue durée finissent par avoir un doute sur leur identité. Des gens sont profondément fragilisés quant à l'image d'eux-mêmes lorsqu'ils se rendent compte que dans la société, il n'y a pas de place pour eux. Et puis la fragilité dans les familles monoparentales, les familles recomposées, avec les enfants qui sont victimes de ces séparations. Je ne veux porter aucun jugement à propos des gens qui se séparent, mais il ne faudrait pas banaliser ce que cela représente chez les enfants, surtout quand ils sont petits. On voit la difficulté dans ces familles recomposées de trouver quelqu'un qui joue vraiment le rôle du père, dans le sens psychologique du terme, celui qui est la loi, celui qui est l'interdiction, celui qui permet de faire l'expérience de la frustration sans laquelle on ne peut pas se construire. Et puis la question de la santé. Nous avons été habitués à de grands progrès médicaux, très rapides en quelques décennies, particulièrement en chirurgie, en imagerie médicale, dans les traitements des cancers, etc. Mais continuellement, la médecine fait l'expérience de ses limites, notre biomédecine de l'Occident. Beaucoup de pathologies ne sont pas encore diagnostiquées, il existe de nombreuses maladies orphelines. On n'est pas capable d'éradiquer la séropositivité, le paludisme. On cherche des solutions. On voit aussi que la maladie d'Alzheimer est aussi un défi très important pour les personnes âgées. Et on prend conscience du coût économique des progrès technologiques. Dans la mentalité occidentale, dès qu'un chercheur fait une découverte d'une technologie de pointe, chacun estime qu'il a le droit de le recevoir, d'en être bénéficiaire. C'est ainsi d'ailleurs que la sécurité sociale connaît des situations absolument ingérables. J'ai personnellement vécu dans un pays, le Zaïre, où il y avait quelques dizaines de lits pour dialyser, pour quelques dizaines de millions d'habitants. Alors il faut bien reconnaître que tout le monde n'a pas l'accès aux technologies. Et petit à petit, ici, même dans nos sociétés occidentales, nous voyons qu'il y a des médecines à plusieurs vitesses. Et donc, les gens n'ont pas toujours les soins qu'ils attendent. Et ils sont, il est vrai, de plus en plus exigeants, parce qu'avec une approche globale de la santé, holistique de la santé, on veut être bon, on veut être bien dans tous les domaines. Et donc, du coup, on est très très exigeant. De même que d'un autre côté, on va marginaliser les personnes qui ont des handicaps et même éviter qu'ils naissent, qu'elles naissent, parce que l'on ne veut pas que cela pèse sur la société. Donc au niveau de la santé, il y a de grosses difficultés que l'on rencontre. Et donc il nous faut tenir compte aussi de cela, parce que ces fragilités dans le domaine de la santé sont le produit de toute une fragilité sociale, mais sont aussi révélateurs, ces problèmes, de la fragilité de chacun d'entre nous.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.